Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, vous êtes bien à l'écoute de Mon Paris FM et on se retrouve pour une nouvelle émission de Société. Aujourd'hui, on va parler d'un lycée un petit peu particulier puisqu'il s'agit du lycée autogéré de Paris, plus communément appelé LAP. Il se trouve que le fonctionnement atypique de ce lycée est actuellement fortement menacé par le ministère et l'éducation nationale. Et pour en parler, je reçois Manu qui est professeur ainsi que Mai et Lounès qui est élève. Salut, comment
bonjour,
ça va?
Bonjour,
ça va très bien.
Ça va.
Ça peut aller. Je suis très content de vous recevoir.
Merci.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus proche des micros? Et ouais. Même les rapprocher, voilà. Et ensuite, on sera bon. En tout cas, comme je disais, je suis très content de vous recevoir. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je pense que la plupart de nos auditeurs n'ont jamais entendu parler de cette structure, quand est-ce qu'est né le lycée autogéré de Paris et qu'est-ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres lycées?
Alors moi, je vais bien commencer sur l'historique. Voilà, donc le lycée, il existe depuis 1982. Il a été ouvert en même temps que quatre établissements pendant le premier septennat de Mitterrand. Et à ce moment-là, il y avait un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Alain Savary et qui a été interpellé d'abord par Gabi Cohen-Bendit et puis par Jean Lévy, Gabi Cohen-Bendit, il lui a envoyé une lettre. Qui s'appelait Lettre aux camarades ministres, voilà, et donc pour l'interpeller sur l'école. Et de là sont nés donc quatre projets de lycées expérimentaux. Voilà, il y en a, les quatre existent toujours, c'est quand même intéressant. Le plus proche de nous qui fonctionne en co-gestion, c'est le lycée de Saint-Nazaire. Et puis voilà, donc ça fait 42 ans maintenant que ces établissements existent. Ouais, pour ce qui est du fonctionnement, je vais laisser la parole aux élèves.
Oui, parce que c'est un lycée autogéré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie du lycée? Comment elle s'exprime, cette autogestion?
L'autogestion, on la pratique de façon quasi totale. On est tous, chaque élève ou prof du LAP est un membre. Et on fait à peu près toutes nos décisions, on les fait voter en groupe. Qu'on appelle les groupes de base. C'est des moments où on se rassemble dans la semaine, le mardi, la plupart du temps. 12 groupes de 20 personnes, avec deux profs et beaucoup d'élèves. Et à ce moment-là, on parle des problèmes du lycée, et ensuite on vote toutes les nouvelles propositions qu'il y a à voter. Et ça permet un moment de débat et d'échange qu'on ne retrouve pas forcément dans le lycée traditionnel.
Mmh. Donc il y a ces fameux groupes de base, qui sont un peu des instances démocratiques.
Ça.
Comme tu viens de le dire, il y a d'autres instances qui permettent cette autogestion.
Oui, il y a la RGG. Donc en fait, la RGG, elle fonctionne.
Tu dis ce que ça veut dire.
Oui, réunion générale de gestion, pardon. Donc en fait, elle fonctionne en partie avec les GB, c'est-à-dire que dans chaque groupe de base, il va y avoir deux délégués. Qui donc vont aller en réunion générale de gestion et qui vont donc faire remonter tout ce qui a été dit en GB. Et donc c'est là qu'on va pouvoir formuler les propositions de vote, faire redescendre des infos. Donc en fait, ça va faire un cercle, c'est-à-dire que la RGG va produire un compte-rendu qu'elle va donner aux groupes de base et les groupes de base vont, eux, rapporter à la RGG ce qu'ils ont, des discussions qui sont ressorties lors des groupes de base.
Il y a un système d'aller-retour avec des délégués.
Exactement.
Qui passent du GB au groupe de base et vice-versa, et qui font redescendre les informations.
C'est okay. Ça, et donc en RGG, comme en GB, il y a à peu près 20 élèves et 2 profs, et les délégués de GB donc tournent, c'est-à-dire que au LAP, on fonctionne par séquence, donc c'est-à-dire qu'on fonctionne de vacances en vacances. Donc, on va dire que si un des les deux délégués sont choisis pour être sur la séquence entre les vacances de la Toussaint et les vacances de décembre, pendant 7 semaines, ils vont aller tous les jeudis matins en RGG pour comment retransmettre la parole de leur GB. Et après, ça va tourner. Le but, c'est que ça tourne. Et les délégués de la réunion d'équipe, donc l'équipe prof, tournent aussi.
Très bien. Ouais. Et donc, tu parles d'équipe prof et d'élèves. Comment ça se passe au niveau des votes au sein des GB?
Au LAP, on fonctionne avec... on a un fonctionnement égalitaire, c'est-à-dire que c'est une personne, une voix. Enfin, à partir du moment où tu as été choisi pour être au lycée, donc soit coopté si tu es prof, soit...
Reçu en tant qu'élève,
recruté si tu es élève, tu peux... Tu as donc le droit de vote. Chaque vote compte... chaque voix vaut la même chose.
Ok. Tout individu a droit à un vote, qu'il soit élève ou professeur. Je trouvais ça intéressant à préciser.
Oui.
Et du coup, indépendamment de ces GB, de ces RGG, je crois savoir qu'il y a des commissions. Je pense que c'est aussi des instances qui permettent au lycée de fonctionner en autogestion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors les commissions, c'est sur le temps de la RGG d'ailleurs, et c'est donc d'autres personnes qui vont se rassembler pour faire différentes choses. Il y a la gestion du budget, il y a la com entretien qui permet de réparer du matériel, des choses qui sont cassées. Il y a aussi la cuisine pour le jeudi, on fait la cuisine le mardi et le jeudi, et pareil, ça c'est complètement autogéré, ce sont les gens qui viennent faire la cuisine eux-mêmes, élèves comme profs. Et voilà, ouais.
En fait, c'est toutes les tâches de gestion d'un établissement qui sont réparties en commissions. Donc avec qui sont sous la, enfin les profs sont, ça fait partie de notre service de d'animer une commission. Pour les élèves, c'est au volontariat et ça tourne. Alors nous, en tant que prof, ça tourne tous les 4 ans. Voilà, on est obligé de changer de commission au bout de 4 ans parce que pour ne pas se spécialiser trop dans une tâche et du coup avoir plus de pouvoir qu'un autre qui n'aurait pas les mêmes infos, les mêmes. Donc l'idée de la rotation des tâches, c'est aussi une idée de démocratie, en fait.
Ok. Et du coup, indépendamment de cette gestion de la vie du lycée, je crois qu'on a bien compris avec les GB, les RGG, les commissions, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a des cours, forcément c'est un lycée, mais comment ces cours fonctionnent? Qu'est-ce qu'il y a au-delà des cours?
Donc nous, on fonctionne en cours, on fonctionne à peu près normalement, c'est-à-dire qu'on a les mêmes programmes que dans les lycées tradis, on prépare au bac, voilà. Après, nous, on a un principe de libre fréquentation, c'est-à-dire qu'on permet, que les lycées permettent aux élèves de choisir leurs emplois du temps, donc de décider s'ils viennent en cours ou pas sans être pénalisés. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer de messages aux parents pour dire « oui, votre enfant n'est pas là ». Voilà. Mais les élèves peuvent également choisir de changer de cours, d'emploi du temps. C'est-à-dire de si, par exemple, le jeudi matin, ils ont anglais et ils n'aiment pas l'anglais et ils ont plutôt envie d'aller en histoire avec une autre classe. S'ils préviennent les professeurs, ils ont tout à fait le droit de faire ça. Et en fait, c'est vraiment de pouvoir aménager son emploi du temps en fonction de ce qui nous convient le mieux. Après...
J'imagine que ça responsabilise énormément. Enfin, je ne sais pas comment vous, en tant qu'élève, vous le percevez, cette liberté de fréquentation. Mais j'ai l'impression que c'est une façon de vous remettre votre scolarité entre les mains. Quoi. Si vous venez en cours, c'est vraiment
totalement.
Votre souhait. Quoi.
C'est ça, moi actuellement je vais au lycée parce que j'ai envie d'aller au lycée et pas parce que je suis contrainte et parce qu'il y a une possibilité de sanction derrière. Enfin, moi je viens tous les jours et je suis très contente de venir et pour moi c'est pas l'horreur d'aller au lycée tous les jours. Donc je pense que ça c'est que mon ressenti, il y a plein de gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué, qui ont beaucoup plus de mal avec les cours et donc ça leur permet aussi d'avoir de l'espace et de ne pas être étouffé par le fait d'être obligé de venir en cours. Après, la libre fréquentation, ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde, mais c'est vrai que ça permet quand même une liberté. Et dans un, vu qu'on a un fonctionnement autogestionnaire, ce serait difficile de ne pas avoir un fonctionnement en libre fréquentation.
Et au-delà des cours, je crois savoir qu'il y a des projets, des ateliers aussi.
Oui, parce qu'il faut préciser quand même que tu dis qu'il y a des cours comme partout, mais les horaires, d'ailleurs, c'est ce qui nous est reproché, donc c'est pour ça que c'est important de le dire. On réduit les horaires matières parce qu'on fait d'autres choses, en fait, et que ces autres choses nous paraissent très importantes pour la formation des élèves et aussi que ça ne nous semble pas contradictoire avec une préparation à l'examen, donc, dont les ateliers et les projets. Mmh. C'est important de dire qu'il y a moins d'heures par matière que dans un lycée traditionnel.
Le projet, si ça t'intéresse, si je peux l'expliquer, c'est donc un temps de 4 heures qui permet de se focaliser toute l'année sur quelque chose qu'on a choisi. Alors, il y a différents projets. Il y a un projet qui se tient à peu près tous les ans qui s'appelle le projet Air Libre, qui est le projet de partir en randonnée avec un professeur, visiter une partie de la France ou même aller un peu plus loin. Ça dépend des fois. Il y a d'autres projets. Moi, je fais le projet Escalade, par exemple. Donc, on fait du sport toute l'année et puis à la fin de l'année on est censé préparer notre voyage pour partir dans les falaises et puis voilà, c'est un truc qui permet vraiment ça motive à aller au lycée. En tout cas, moi c'est pour ça que je viens le jeudi, c'est pour ça que je viens quasi tous les jours, c'est parce que je croise les gens avec qui je travaille et avec qui je fais mes projets et aussi mes ateliers, les ateliers qui sont vachement variés et intéressants. Voilà.
Ok.
Un atelier c'est un petit peu comme un projet, sauf que là, on n'est pas forcément engagé sur toute l'année. Et donc, ça a lieu de 16h à 18h, 3 soirs par semaine. Et donc là, il y a une diversité d'ateliers. Il peut y avoir de la photo argentique, parce qu'on a la chance d'avoir un labo photo dans nos locaux. Peut y avoir la régie son, régie lumière. Il peut y avoir plein d'ateliers différents et là, pareil, en fait, t'es pas obligé de t'engager. Tu peux partir, tu peux te dire que tu testes tous les ateliers sur toute l'année. Voilà, et donc ça permet en fait d'avoir un plus et de pas juste être cantonné au fait de faire que des cours dans la journée et donc d'avoir un espace aussi où tu peux
expérimenter autre chose.
C'est ça, et expérimenter plein de choses.
On peut préciser que les ateliers et les projets peuvent être menés par des élèves aussi.
Oui.
Alors les projets, c'est 4 heures par semaine, c'est toute l'année, c'est un peu lourd à porter pour un élève. Mais les ateliers, par exemple, cette année, je crois qu'il n'a plus lieu, mais il y avait un atelier de langage des signes et c'est une élève qui est bilingue en langage des signes qui menait l'atelier, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables au lycée.
Ouais, c'est super intéressant, ça met en évidence le fait que c'est dans le prolongement de ce que tu décrivais un petit peu plus tôt où une personne égale une voix et où on laisse la possibilité aux élèves de s'emparer d'un atelier ou même d'un projet, éventuellement d'être à l'initiative en fait et pas que suiveur. Et donc, toi, tu disais que tu étais en projet Escalade. Toi, tu fais un projet cette année?
Avec Manu, on fait le projet théâtre. Donc, Manu est prof de théâtre, elle nous aide, elle nous dirige un petit peu sur des ateliers de théâtre jusqu'à la création d'un spectacle. Voilà. Donc on se réunit tous les jeudis. Et on
spectacle
fait...
qui sera... Il y aura une représentation au lycée, j'imagine.
On a déjà fait une représentation pendant la soirée cabaret, donc en fait qui est une soirée de restitution. Il y en a deux dans l'année. Une en décembre, avant les vacances de décembre, et une à la fin de l'année, un petit peu après les épreuves du bac. C'est des deux soirées, en fait. Il y a une restitution de tout ce qui a été fait au cours de l'année, que ce soit en projet, en atelier, en cours. Et donc, nous, on a fait un spectacle d'une trentaine de minutes pendant la soirée cabaret qui a eu lieu avant les vacances de décembre.
Ok.
Voilà. Et là,
super.
On essaye de préparer un deuxième spectacle pour la fin de l'année. En tout cas.
On vous souhaite beaucoup de réussite dans
Merci.
Cette entreprise
Merci.
De pièces. Plus personnellement, en fait, qu'est-ce que ce lycée vous a apporté? C'est peut-être un petit peu compliqué comme question, mais
ouvert comme question. Ouais.
C'est très ouvert, mais c'est à vous de l'investir. Sur le plan, que ce soit le plan scolaire, que ce soit le plan humain, que ce soit le plan à tous les niveaux, c'est à vous de voir.
Moi, personnellement, je m'étais désintéressé des cours de seconde que je faisais l'année dernière. Et je cherchais un peu un truc alternatif, mais aussi j'ai vu, enfin, je me suis beaucoup renseigné sur l'autogestion, le projet politique que c'est, et etc. Et j'ai vu que le lycée, enfin, mes frères m'ont parlé du lycée autogéré, donc je suis venu. Et ça m'a apporté, en fait, ça m'a apporté un peu ce que je cherchais, une responsabilisation, l'impression d'être quelqu'un qui peut s'affirmer dans sa scolarité au lieu d'être prisonnier de mon lycée de l'année dernière. Moi, ça m'avait vraiment fait lâcher, quoi. Et c'était un peu une souffrance. Et là, le lab, ça m'a permis de me remettre dans les cours, de faire plein d'autres trucs aussi, parce que c'est ça qui est important dans les projets et les ateliers, c'est de pouvoir faire d'autres choses pour se réintéresser aux cours, des trucs un peu annexes. Et du coup, moi je suis très très content d'être passé dans ce lycée.
Oui, parce que ce qui est intéressant à préciser, c'est que c'est déjà un lycée public, mais ce n'est pas un lycée de secteur. C'est vraiment une démarche personnelle d'y aller. Et ça fait écho au parcours que tu nous racontes. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de parcours de gens qui étaient en décrochage ou qui avaient de la phobie scolaire.
C'est la plus grosse partie de la population du LAP, ouais, carrément. Des décrocheurs, des gens qui n'arrivaient juste plus à aller en cours, qui avaient des vraies crises d'angoisse, etc. Et que le LAP permet de les remettre doucement dans le bain, quoi.
Ok.
Ouais. Moi, personnellement, je fais partie de ces gens-là. Oui, j'ai une phobie scolaire qui a commencé vers la fin de ma quatrième. Et donc, après, j'avais des gros problèmes avec la relation que j'avais avec mes camarades. Je ne me sentais pas du tout à ma place. Et donc, ça me provoquait des grosses, grosses crises d'angoisse. Et donc, je pense que je ne pèserais pas mes mots, en fait, si je dis que le LAP a vraiment sauvé ma vie, parce que... Bah, j'étais vraiment dans un état de dépression tel que c'était très très compliqué même au quotidien, pas juste d'aller en cours mais au quotidien. Et donc quand je suis arrivée au lab, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène. Et donc moi là, ça fait 3 ans que je suis au lab et donc je suis vraiment, je pense que je pourrais jamais suffisamment remercier ce lieu parce que les gens que j'ai rencontrés, parce que vraiment ça a transformé la personne que j'étais et qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et du coup, j'ai rencontré des gens formidables et bah, mes meilleures amies, elles sont au lycée. Et non, vraiment, il y a un truc où, en dehors du fait d'avoir soigné ma phobie scolaire, ça m'a aussi permis de me libérer aussi en tant que personne dans la vie au quotidien, quoi, de prendre confiance en moi, de plus avoir peur de parler avec des gens. Maintenant, je peux prendre la parole devant une assemblée générale de 250 personnes. Il n'y a pas de souci. Alors qu'avant, c'était un peu plus compliqué quand même. Non, vraiment, ça a joué un rôle très, très important dans ma vie.
D'un point de vue et scolaire et humain, quoi.
Totalement.
Et Manu ?
Ah, moi aussi.
Mais d'autant plus que je crois savoir que tu as les deux casquettes, puisque oui, tu as été élève et puis professeur.
T'es bien informé, ouais. Oui. Donc, moi j'ai été élève en 82, donc à l'ouverture du lycée, même avant, parce que j'ai fait partie des réunions préparatoires. Moi je peux dire que ce lieu il est essentiel dans ma vie. Alors parce que je pense que depuis que j'ai, donc quand je suis arrivée j'avais 17 ans, bon, aujourd'hui j'en ai 58, et depuis mes 17 ans il n'y a pas une année de ma vie où j'ai pas mis les pieds au lycée autogéré. Donc j'y étais là, après je fais des études, hein, je vous rassure, pour devenir prof. J'ai pas été embauchée direct, mais évidemment moi ce que décrit Maï, moi je faisais pas de la phobie scolaire, mais j'étais très très, j'allais arrêter l'école aussi parce que ça n'allait pas, et voilà, le lycée m'a permis d'être l'adulte que je suis aujourd'hui, et moi je suis hyper fière de pouvoir, enfin jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir transmettre, enfin moi je garde en tête ce sentiment dont on m'avait enlevé un poids énorme, et je recommençais à être heureuse d'aller à l'école, et cette chose-là je le garde en tête même encore aujourd'hui, parce que je vois bien que c'est toujours le cas, en fait ça existe toujours, pour même si lui c'est très différent évidemment, et heureusement depuis le temps il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué, il s'est beaucoup structuré, mais ça reste très présent, et moi je trouve que c'est essentiel, et on va en parler, mais c'est ce qui est remis en question actuellement, et ça c'est, oui, c'est assez, c'est extrêmement grave de priver un certain nombre de jeunes gens de ça, en fait.
Ah ouais, on y reviendra, on y vient doucement. Certains détracteurs font remarquer que c'est le lycée avec le taux de réussite au bac le plus faible de France, autour de 30 ou 40%, il me semble. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Bah, moi, je peux parler en premier. Le bac, en fait, c'est pas une priorité pour tout le monde au lycée Autogéré. Il y a plein de parcours alternatifs qui sont proposés, de formations qui sont sans le bac, parce que le bac, c'est quand même un examen, ça rentre dans les trucs du lycée traditionnel qu'on essaye d'éviter un peu. Même si on prépare, bien sûr, au bac, au lab, il y a quand même une grosse cellule de préparation. Mais moi, je peux parler, par exemple, de mon grand frère qui n'a pas passé son bac et qui maintenant, grâce à l'atelier Régie Lumière qui est présent au lycée autogéré, a une formation et fait son métier et est très épanoui et bosse là-dedans, quoi. Donc, aussi, permettre aux gens de dire que le bac, ce n'est pas une priorité et qu'il y a d'autres choses à tester parfois.
Que le lycée offre encore plus que le bac, quoi.
C'est ça, exactement.
Mmh. Oui, parce qu'il y a des vocations qui naissent au sein des ateliers.
Beaucoup dans... autour de la Régie Lumière, l'escalade aussi, il y a plein d'élèves qui sont devenus cordistes. Enfin voilà, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au lycée autogéré, les élèves qui préparent le bac, ils l'ont comme ailleurs en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'élèves qui ne le préparent pas, et pas pour des raisons diverses et variées, soit parce qu'ils font autre chose, soit parce qu'ils sont à un moment de leur vie où c'est pas possible. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Mais il faut dire aussi que nous, et c'est très important de le dire, les élèves rentrent au lycée sans qu'on regarde leur dossier scolaire. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des avis de conseil de classe. Un élève qui n'a pas son passage en seconde, il peut rentrer en seconde au lycée. C'est aussi une des choses qui frotte un peu par rapport à l'institution. Mais nous, on y tient fort. C'est-à-dire qu'un élève vient chercher une formation du type baccalauréat général parce qu'il en a envie et non pas parce que l'institution a décidé qu'il pourrait le faire ou pas. Voilà. Donc, évidemment, il y a plein d'élèves qui arrivent après des années d'échecs scolaires et ce n'est pas forcément en 3 ans qu'on rattrape tout ça. Mais par contre, souvent, ils ressortent avec suffisamment de bagages pour aller faire d'autres choses après.
Mais finalement, peut-être que c'est 30%, mais 30% de personnes qui ne l'auraient peut-être pas eu ailleurs, quoi.
Pour beaucoup, c'est sûr. Quand on écoute Maï et ce qu'elle décrit de son parcours scolaire, on peut imaginer que quand on fait des crises d'angoisse avant d'aller au lycée, il y a peu de chances qu'on réussisse son examen.
Ouais.
Voilà.
De toute façon, voir la scolarité ou l'intérêt d'un lycée que par le prisme du bac, ce n'est pas forcément pertinent. Mais je vous pose la question qui peut vous apparaître comme une question bête parce que c'est quelque chose qui est récurrent.
C'est quelque chose qui ressort tout le temps.
Bah oui. Donc c'était.
Quand on veut dire du mal du lycée autogéré, on dit ah ouais mais regardez ça marche pas en fait, ils ont un taux de réussite. Mais quand même là je peux raconter un truc hyper. Une fois dans une réunion de parents, il y a un père qui nous a dit en fait moi j'ai regardé la liste des lycées parce qu'il y a un classement. Hein. On vous a choisi vous parce que vous étiez les derniers. Et qu'on s'est dit, s'ils sont les derniers de la liste, forcément, ils vont arrêter de mettre de la pression. Ils sont sûrement beaucoup plus bienveillants qu'un lycée traditionnel. Ben voilà, cette anecdote, moi, je la raconte toujours parce que je trouve que c'est hyper... ça dit tellement de choses de ce qu'on est. Parce qu'ailleurs, il y a 99% de réussite, mais il y a combien d'élèves qui sont bazardés à la fin de la seconde parce qu'on sait qu'ils n'auront pas le bac. Nous, quand un élève rentre au lycée en seconde, il fait son trajet au lycée qu'il a décidé de faire et ce n'est pas nous qui lui demandons de partir. Quelle que soit ses réussites, de toute façon, il y a quand même une chose importante qu'on n'a pas dit, c'est qu'on ne met pas de notes, nous, au lycée autogéré. Donc forcément, ça change aussi plein de choses dans le rapport au savoir et dans le rapport à l'évaluation.
Bah maintenant qu'on a bien cerné ce qu'est le LAP, on va parler de son actualité qui n'est pas réjouissante malheureusement. Il se trouve que l'établissement a fait l'objet d'une enquête administrative de la part de l'inspection générale et du ministère de l'Éducation nationale qui menace très fortement son fonctionnement qu'on a décrit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte et les événements qui ont mené jusqu'à cette enquête administrative ?
Je peux commencer et
oui.
vas-y. Complétera. En fait, ça fait pas que depuis cette année que le lycée autogéré est menacé. En fait, tous les 5 ans, le LAP devait signer une convention avec le rectorat pour déterminer son fonctionnement pendant 5 ans. Et donc, en 2022, qui était censé être le renouvellement de la signature de cette convention, le rectorat a refusé de la renouveler. En juin 2022, et a demandé au lycée d'écrire un projet d'expérimentation qu'il a refusé 2 fois. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en accord avec ce que les membres du lycée avaient écrit dedans. Et donc, à ça est venu s'ajouter, comment l'année dernière, un professeur a été accusé de violences sexistes et sexuelles par des élèves. Et donc, ça a créé une grosse scission, que ce soit dans l'équipe ou les élèves. Et donc, s'en est suivi beaucoup de remontées au rectorat, des signalements de la part d'élèves, de parents d'élèves, de profs. Et suite à ça, le rectorat a décidé de demander à l'Éducation nationale, enfin au ministère de l'Éducation nationale, de lancer une inspection générale qui donc s'est a mené à une enquête administrative qui en fait s'est déroulée totalement à charge du lycée et d'une manière vraiment très extrêmement difficile pour les membres du LAP. Et donc le vendredi, juste avant les vacances de février, donc Monsieur Barle, qui est le DAZEN numéro 2, donc c'est le directeur académique d'éducation secondaire donc des lycées, est venu avec Madame Beza, la proviseure du lycée Jean Lursat, qui est notre lycée de rattachement, donc qui, vu que nous on n'a pas de, le LAP n'a pas de proviseur, le lycée Jean Lursat permet de faire le pont entre pour tout ce qui est budgétaire, sécuritaire, par exemple si on doit avoir des ordres de mission, c'est elle qui doit signer pour partir en voyage et tout ça. Et donc là ils sont venus tous les deux pour nous, donc Monsieur Barle nous a lu les recommandations de l'enquête administrative et donc nous expliquer en fait ce qui allait se passer ensuite pour nous. Et donc là il nous a dit que 5 professeurs allaient être suspendus à partir de la rentrée de février. Donc là depuis 2 semaines il y a donc 5 professeurs qui sont suspendus et qui ont été remplacés, mais ça nous pose quand même énormément de soucis dans notre fonctionnement global. Et en plus de cela, il y a quand même le fonctionnement du lycée en lui-même est quand même particulièrement attaqué, c'est-à-dire que la libre fréquentation, qui est une des choses qu'ils attaquaient le plus, on ne sait pas, clairement ça ne va pas rester comme ça. Et pour eux, le fait de ne pas prévenir les parents d'où se trouvent leurs enfants, c'est pas possible.
Des enfants mineurs.
Oui, des enfants mineurs, oui, voilà. Parce que si on est majeur, pas besoin d'autorisation parentale pour s'inscrire au lycée. Et donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que la cooptation est suspendue. Donc la cooptation, qu'est-ce que c'est? La réunion d'équipe, l'équipe enseignante, qui, quand il y a un poste à pourvoir dans l'équipe, ils font... c'est-à-dire qu'il y a des gens qui postulent pour venir au LAP chaque année et donc ils vont rencontrer ces professeurs qui demandent à pouvoir venir au lycée et ils vont faire des entretiens, voilà, ils vont leur expliquer comment ça se passe, voir s'ils sont bien au fait de comment on fait au lycée autogéré de Paris. Et ensuite, il y a un vote de l'équipe enseignante pour savoir quel enseignant est pris ou pas. Et donc ça a été suspendu, donc ça veut dire que maintenant, même plus suspendu en fait, ça n'existe plus. Maintenant, le recrutement des professeurs va fonctionner sur poste à profil. Et un poste à profil, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ils vont... Manu, je ne sais pas si tu peux peut-être mieux expliquer.
Alors, normalement, les postes à profil, c'est des postes qui apparaissent au mouvement, parce que quand on est enseignant et qu'on veut changer de poste, on participe à un mouvement. Donc les postes à profil sont dans un mouvement, mais un peu à part. Et donc l'institution rédige un profil de poste, et puis après donc des enseignants candidats sur ce profil, et c'est les inspecteurs matière qui donnent leur avis sur cette candidature. Voilà, donc nous, évidemment qu'on n'a jamais, les inspecteurs, jusqu'à juillet dernier, ne se sont mêlés du recrutement des enseignants. On faisait ça en équipe et on envoyait nos décisions au rectorat qui validait nos décisions. Il n'y avait pas de regard de l'inspection sur les profils, d'autant plus que les inspecteurs matières, le lycée autogéré est très très mal connu de l'institution. Tout ce qu'on vous a raconté là de son fonctionnement, si vous allez interroger n'importe qui au rectorat, personne ne sait exactement de quoi il en retourne. Mais c'est quand même des inspecteurs qui vont dire si oui ou non un enseignant est, ou une enseignante serait capable d'enseigner au lycée autogéré alors qu'ils n'en savent absolument rien. Voilà. Mmh. Et donc peut-être que l'équipe garderait peut-être un petit droit de regard, mais on ne sait pas exactement lequel, puisque tout est très flou en fait.
Mais il y a aussi notre troisième pilier qui est attaqué, et je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Maï, elle a dit recommandation, alors qu'en vrai c'est préconisation, oui. Donc c'est des choses qu'on doit appliquer. Et en troisième, donc, il y a l'autogestion qui est arrêtée en soi, puisque avant notre proviseur du lycée de rattachement, donc Madame Beza, qui travaille à Jean Lursa, elle n'avait pas un rôle majeur, juste elle nous signait les bons de commande, etc. Et maintenant ça va devenir notre proviseur, donc on va avoir une proviseur, ce qu'on n'avait pas du tout, donc un membre qui est supérieur hiérarchiquement aux autres, ce qui est vachement perturbant et qui déjà nous pose des problèmes maintenant. Donc ça aussi, c'est l'autogestion qui est un peu en train de partir en vrille. On a beaucoup de mal à se réadapter, à se renouveler en fait avec ce nouveau truc. On ne sait même pas si on va pouvoir la garder comme ça, l'autogestion, et même si ce sera autogéré encore.
Oui, si on pourra encore parler d'autogestion en fait.
Bah, là, actuellement, on ne peut plus parler d'autogestion. Elle devient la responsable hiérarchique, pédagogique et budgétaire du lycée autogéré, ce qui n'était pas le cas. Voilà. Donc ça c'est, enfin actuellement l'autogestion est stoppée parce que autant il y a des choses qui vont prendre effet à la rentrée de septembre, autant ça, la responsabilité de Mme Beza, elle prend effet, elle a pris effet le 26 février. Donc ça c'est déjà fait.
Mmh. Et
il faut peut-être dire que ce qu'il nous a annoncé aussi, c'est qu'il allait y avoir la rédaction d'une nouvelle convention qui porte, enfin, on sait pas, je comprends pas pourquoi ils appellent ça une convention, parce que c'est pas vraiment une convention. Ça va être un texte qui va définir les nouveaux modes de fonctionnement du lycée autogéré, qui va être écrit par le rectorat et uniquement par le rectorat, pas du tout par nous. C'est-à-dire qu'on n'aura rien à dire là-dessus et que ça sera présenté aux élèves, aux parents et aux enseignants, et que chacun de ces trois catégories devront signer ce nouvel engagement. Et s'ils ne le signent pas, ils ne feront pas partie du lycée autogéré. Là, les élèves, s'ils ne veulent pas signer cette forme, je ne sais pas comment ils vont l'appeler réellement, mais c'est une forme de règlement, quoi. Et ben, ils ne seront pas inscrits et leurs parents devront signer cet engagement aussi. Et les enseignants qui veulent travailler au lycée autogéré devront signer cet engagement. Alors, chose complètement inédite. On n'a jamais, en 42 ans, jamais le rectorat, enfin la convention qui était valable jusqu'en 2022, elle avait été rédigée avec nous, évidemment. On avait participé à sa rédaction. C'était un aller-retour entre le rectorat et nous. Et là, il l'a bien dit, et il l'a même répété après en off. Il n'y a pas de négociation possible, en fait.
Mais on vous confisque totalement votre projet.
Ouais.
Et comment c'est perçu ça par les élèves, par les profs? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a différentes approches? Est-ce que c'est pris différemment par différents partis?
Oui, enfin, je crois que déjà, le lycée, il a été quand même... l'année dernière, la crise qu'on a traversée, la crise interne, hein, j'entends, elle a quand même bien abîmé le fonctionnement du lycée. Et là, la suspension de nos quatre collègues, donc ils sont suspendus parce qu'ils sont, ils sont mis en cause dans cette enquête administrative pour des raisons qu'on ne peut pas trop développer ici parce que les procédures disciplinaires sont en cours. Donc là, ils sont suspendus. Ils vont passer très certainement en conseil de discipline d'ici quelques semaines. On ne peut pas trop donner de détails parce qu'il faut, les protéger. Mmh. Mais les motifs sont complètement hallucinants.
Oui. En tout cas, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que les quatre en question ne sont pas concernés par ces accusations de
non.
VSS.
Non. C'est, de toute façon,
l'enquête... VSS, pour les auditeurs, c'est violence sexiste et sexuelle. Voilà.
De toute façon, l'enquête administrative, elle a eu lieu parce que il y a eu des conséquences, il y a eu un conflit dans le lycée à la suite de cette affaire de mise en accusation d'un enseignant. Mais en fait, on a été auditionnés, hein, tous les enseignants. Moi, on m'a absolument pas, pendant mon audition, on m'a absolument pas parlé de cette histoire. On m'a parlé des conséquences de cette histoire, mais pas de cette histoire. De toute façon, l'inspection générale, ce n'est pas la police ni la justice. Donc, ils n'ont pas le droit de s'occuper de cette affaire-là. Mais enfin, c'est très clair, c'est évident que le rectorat utilise ce conflit et utilise cette enquête administrative pour remettre en question ce qu'ils remettaient déjà en question avant cette enquête administrative. Parce que dès le début, au refus de la signature de la resignature de la convention, était mis en cause la libre fréquentation, l'autogestion, et à moindre coût, ben ça a changé, mais la cooptation, ils avaient l'air de ne pas trop vouloir y toucher. Bon, là, ce n'est plus le cas maintenant. Mais donc, on voit bien que l'attaque, elle était bien antérieure à tout ce qui s'est passé l'année dernière et bien antérieure à l'enquête administrative. C'est-à-dire que l'enquête administrative, elle vient conclure des attaques qui datent de bien avant cette histoire, en fait.
Oui, en fait, c'est cette accusation et les lignes de fracture que ça a engendré au sein du lycée, c'est quelque part, en fait, qu'un prétexte pour cette enquête administrative. Clairement. Pour faire du tort au fonctionnement du lycée. Et moi, je suis curieux de savoir quels sont les arguments en faveur de la modification de la vie du lycée. En quoi ça leur pose problème? Est-ce qu'ils essayent de...
Bah, le grand mot, c'est la mise en sécurité des élèves et des personnels. Donc, ils essayent de faire... croire que ce qui s'est passé l'année dernière
est le fruit du fonctionnement alternatif du lycée.
Parce que donc que le lycée, dans son fonctionnement autogestionnaire, n'est pas capable de gérer un conflit, en fait. Mmh. Voilà. Et quand même, moi, je dois le dire, alors là, je dois dire que je m'exprime complètement en mon nom, et pas du tout au nom du lycée autogéré, mais qu'il y a quand même une partie de l'équipe qui est maintenant partie du lycée, et qui a externalisé ce conflit, c'est-à-dire qui a décidé de le porter à l'institution et qui a du coup engendré, a donné une très belle occasion à l'institution de rentrer dans cette attaque, en fait. Puisque vous n'avez pas de chef, vous n'arrivez pas à régler vos conflits d'équipe. Vous n'avez pas de chef, vous ne pouvez pas régler les élèves... qui sont révoltés contre vos réactions, eh ben vous savez pas gérer ce type de conflit. En gros, s'il y avait un chef,
L'absence de hiérarchie qui justifie tous les problèmes et tous les conflits.
Alors que,
comme si dans les lycées où il y avait de la hiérarchie, il n'y avait pas de d'accusation du même ordre et qu'on questionnait pas, enfin que du coup ça se réglait d'individu à individu.
Aucun lycée n'a été fermé parce qu'il y a eu des questions de VSS dans un lycée. Oui, ça n'existe pas, en fait.
On ne revoit pas tout le fonctionnement du lycée traditionnel.
Parce qu'il y a des questions de VSS.
Oui, c'est hyper.
Donc on voit bien là que c'est vraiment une instrumentalisation et une attaque politique. Parce que je tiens à dire que, par exemple, il y a eu. On a eu deux articles dans la presse qui ont été vraiment. Qui attaquait et qui n'avait comme angle que cette question des VSS et qui du coup discréditait complètement notre parole, la parole des gens qui travaillent actuellement dans le lycée. Et puis quand même, il y a eu une communication qui a été faite du rectorat envers des élus de droite au conseil municipal du 15e arrondissement et au conseil de Paris, puisque il y avait une élue écolo qui voulait faire voter une motion de soutien. Et que là, sont intervenues une députée Renaissance et une députée LR, des conseillers municipaux, une Renaissance et une LR, qui tenaient leurs informations du rectorat. Donc, elles n'avaient pas inventé les choses, avec des propos qui ont révélé des informations auxquelles le public ne pouvait pas avoir accès. La suspension d'un enseignant, des éléments qui ont été donnés par le rectorat, alors que il n'y avait pas de connaissance publique de ces éléments, en fait. Voilà. Donc ça, c'est bien orchestré par quelqu'un au rectorat qui donne ces informations-là à des élus de droite et qui répète la même chose au Conseil de Paris. Et qu'à ce Conseil de Paris, qui représentait une motion de soutien, les élus de droite se sont mobilisés ce jour-là pour venir voter contre.
Et donc il y a une réelle offensive qui dépasse totalement le cadre de cette accusation qui en fait sert de prétexte à...
Vraiment. Et on ne sait pas qui orchestre tout ça, mais il y a quand même une volonté politique de destruction de ce projet. C'est assez clair.
Et est-ce qu'il y a des marges de manœuvre, des perspectives possibles afin d'essayer de sauver le LAP ou ça vous semble compliqué de là où on est
Bah, c'est un petit peu compliqué parce que même nous, dans le lycée, on est à un point où on n'est pas d'accord entre nous, on sait pas forcément comment réagir parce que déjà, on est tous totalement abattus et un peu assommés par le coup de massue qu'on s'est pris avant les vacances. On va dire qu'il y a deux mouvements qui se créent un petit peu. Il y a un mouvement qui est plus pour la négociation, qui est en fait pour négocier avec Madame Beuza ou Monsieur Barle, et en fait d'essayer de tirer un petit peu le mieux, enfin le meilleur qu'on puisse tirer de cette convention, dans le sens de se dire ok, on signe, mais en fait on fonctionne comme on veut dans notre coin et tout ça. Voilà, et il y en a d'autres qui pensent que justement, au contraire, il faut faire une résistance un peu plus. Comment dire ça, musclé, enfin vraiment
radical.
Radical, voilà.
Radical.
Et donc ça voudrait, enfin vraiment de, donc qu'il n'y ait pas de négociation possible, et donc vraiment un investissement de tous les membres du lycée, vraiment sur la semaine, qui serait quand même plus important. Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a, il y a des, il y a des pour, des contre pour les deux, et que on est dans un, là on est un petit peu dans une impasse. Enfin, personnellement, moi je trouve que là on est un peu dans une impasse parce qu'en même temps les premiers et terminales ont leur bac à la fin de l'année, donc on est quand même assez proche. Enfin, moi je sais que ma première épreuve elle est dans à peine 2 mois, donc c'est vrai que il y a quand même la mobilisation des élèves, elle va être quand même vachement ralentie par rapport à ça, même si il y en a qui aimeraient vraiment beaucoup s'investir. Ça commence à être un petit peu compliqué pour nous, et puis en fait le climat du lycée est quand même plutôt tendu parce que en fait tout le monde est vraiment stressé et vraiment mal par rapport à ça, et du coup ça fait qu'il y en a qui n'arrivent plus à venir au lycée. Donc vraiment il y a un côté un peu peut-être défaitiste quand je le dis comme ça, mais c'est vrai que là on est un peu dans un on a l'air un peu dans une impasse. Et comme disait Manu tout à l'heure, Monsieur Barre l'a dit, il n'y aura pas de négociation possible. Donc on a un peu l'impression aussi qu'on a une marge de manœuvre, mais qui est riquiqui. Donc on sait, là, on est un peu,
D'où
même
peut-être
si.
cette idée de radicalité ou
Oui, c'est ça.
de rapport de
Voilà.
force.
Après, oui.
Parce que vous êtes, comme tu l'as dit, un peu acculé et il y a peut-être plus que ce rapport de force qui est envisageable. Après, je ne sais pas comment. Je crois qu'il y a un comité de
Il y
soutien.
a deux comités de
Non, il n'y
soutien.
en a qu'un.
Il n'y en a qu'un? Ok. Je pense. Donc pour les profs suspendus et pour le lycée autogéré en général. Voilà. Et donc on ne peut plus se réunir au lycée, mais on se réunit dans des salles de la ville de Paris.
On ne peut pas se réunir au lycée parce que les enseignants suspendus n'ont plus le droit de venir au lycée.
Oui, n'ont plus le droit de contacter des membres du lycée. Voilà, c'est
Ouais, c'est
peu
une
compliqué.
offensive
C'est extrêmement
très, très
violent.
violente,
Oui.
ouais.
C'est très violent, et surtout qu'au sein du LAP, on n'arrive pas à tenir une ligne commune, ce qui nous permettrait de lutter, mais en fait, il y a plein de gens qui ont des idées différentes, et au-delà de ça, donc il y a les premières et terminales qui sont très motivées, mais qui ont leur bac. Et en tant que seconde, en fait, nous, on a eu beaucoup de mal à se mettre dans cette année, parce qu'au début de l'année, tous les profs étaient auditionnés au rectorat, avaient des trucs à faire au rectorat, donc au final, il y avait des heures de cours qui sautaient, les gens qui étaient les plus investis, parce qu'au début de l'année, quand t'arrives au lab, t'es quand même le plus investi possible, t'as envie d'aller en cours, t'as envie de découvrir. Et là, en fait, l'impossibilité de découvrir, de voir qu'il y a des gens absents, de voir que ça fonctionne pas comme avant et tout, juste à cause du rectorat qui mène son enquête administrative d'une façon un peu tyrannique et d'une façon qui est vraiment difficile à vivre, et ben au final plein de secondes viennent plus et on est très peu, on est très très peu et on n'arrive pas trop à avoir de lutte quoi, on n'arrive pas à trouver la force de lutter et la ligne à tenir.
En fait, l'institution, elle a très bien managé son histoire, en fait. Attaquer le fonctionnement, suspendre des profs, il faut voir quels profs ils ont suspendus, qui sont aussi des figures historiques du lycée et qui sont aussi des gens qui tiennent le lycée quand même à bras-le-corps depuis un certain nombre d'années. Et donc, on affaiblit l'équipe, on affaiblit le fonctionnement. Et du coup, c'est très, très compliqué d'avoir une cohérence, enfin d'avoir le collectif a du mal à exister en fait. Depuis moi, je me dis que les enseignants qui sont arrivés en septembre et les élèves qui sont arrivés en septembre n'ont pas connu le lycée autogéré parce qu'il était déjà empêché dans son fonctionnement. Voilà, et quand on a ça au-dessus de la tête, parce que le 9 février, on nous a fait les annonces, mais on savait bien qu'on allait c'est ce qui allait nous arriver. Bon, il a même été question de fermeture pendant un moment, mais ils ont été beaucoup plus malins que ça parce qu'ils auraient fermé le lycée. Je pense qu'il y aurait eu un gros, gros mouvement bien plus facile à soulever si le lieu avait fermé. Là, ils maintiennent l'ouverture, ils maintiennent le budget, ils maintiennent le nombre d'heures d'enseignement, ce qui fait qu'ils disent, bah, vous voyez, on n'attaque pas le lycée. Mmh. On vous remet dans les clous parce que vous avez dysfonctionné. Donc, ouais. C'est très, très bien vu du point de vue de l'institution. C'est très stratégique.
C'est assez machiavélique où, en fait, on ne ferme pas le lycée, mais on s'attaque à tellement de points fondamentaux et on s'attaque tellement au socle et tellement à ce qui fait la spécificité de ce lycée. En fait, c'est une telle transformation que c'est comme si on le fermait, sans le dire, quoi.
Bah, ouais. Mais après, ils le disent quand même dans le... Parce que maintenant, on ne s'appelle plus le lycée au DGE de Paris, en fait. À partir de l'année prochaine, on va s'appeler... Le dispositif francilien et innovant pour les élèves en difficulté scolaire.
Pour les élèves éloignés du système scolaire. Mais ça, ce n'est pas le nom qu'ils vont donner, parce que eux, je pense qu'ils ont envie de garder le lycée autogéré de Paris, parce que voilà, ça a une certaine image de marque et tout ça, même s'ils font croire qu'on fait n'importe quoi. Mais ça, c'est leur définition du lieu. Oui. Mais après, le titre... D'ailleurs, on leur a dit qu'il va falloir trouver quelque chose à la place du A, parce que...
Le comble quelque part serait qu'ils se permettent de garder mot autogéré.
Ah bah, moi je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Évidemment, ils ont tous les culots, hein. Bah oui, évidemment, de dire en fait, mais qu'est-ce que vous racontez, enfin voilà. Et puis on vous laissera, je sais pas, moi je dis toujours ça, voter sur la couleur du papier toilette. Ça serait, enfin je veux dire que voilà, je pense qu'ils vont laisser des espèces de petites marges. Comme ça pour dire, vous voyez, on n'enlève pas l'autogestion. Parce que de toute façon, il nous avait dit dès le départ, l'autogestion, ça ne peut pas être une fin en soi. Voilà, l'autogestion, en gros, si vous voulez occuper vos élèves décrocheurs, là, vous pouvez prendre des décisions avec eux, mais sûrement pas faire fonctionner un établissement sans hiérarchie, etc. Donc, même eux, ils disaient, mais non, ce n'est pas vrai, en fait, on n'enlève pas l'autogestion. En fait, voilà, on n'a tout juste pas la même définition de l'autogestion, quoi, c'est tout.
En tout cas, c'est très triste de voir un établissement comme ça, un établissement d'émancipation. Et je pèse mes mots. Je pense que les auditeurs auront pu s'en rendre compte au vu de toutes vos interventions, aussi menacées. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dont vous souhaiteriez parler éventuellement, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait le tour ?
Moi, juste, je voulais dire qu'au départ du lycée. Les enseignants qui ont créé ce lycée, leur mot d'ordre, c'était « changer l'école pour changer le monde ». Voilà, bah, c'est un peu raté. Mais, mais je veux dire que c'est ça qui porte le lycée autogéré, et je pense que c'est ça qui dérange l'institution. Voilà, c'est qu'on veuille changer le monde.
Oui, mais je vais faire un peu tomber les masques. Oh, j'ai un peu une double casquette. Là, aujourd'hui, je vous interview pour mon Paris FM, mais il se trouve que dans mon parcours personnel, j'ai moi-même été au lycée autogéré de Paris, un lapien, comme on dit. Et c'est la première fois que j'entends dire que je prends connaissance de ce mot d'ordre. Et ça corrobore parfaitement une sensation que j'avais eue. Parce que souvent, quand je communique sur mon parcours au lycée autogéré de Paris, j'ai tendance à dire que c'est un lycée qui m'a préparé à un monde qui n'existe pas encore. Et ça corrobore parfaitement ce que tu disais. Et en tout cas, c'est triste de le voir aussi menacé aujourd'hui.
C'est triste et c'est révoltant parce que ça va priver des milliers d'élèves d'un lieu d'émancipation, effectivement, et de liberté. Et ça, c'est grave. Au-delà d'être triste pour nous, parce qu'effectivement, c'est compliqué, mais au-delà de ça, c'est grave politiquement, en fait. Et pour moi, ça va dans le sens de toutes les attaques, oui, quand même, c'est ce qu'il faut dire, toutes les attaques actuelles contre l'éducation nationale. Quand on voit ce qui se passe au collège en ce moment, avec les groupes de niveau et le SNU, tout ça, il y a une espèce de logique. Nous, on est tout petits dans cette logique, mais c'est la même logique.
On voit une offensive, une dynamique de plus en plus autoritaire, de plus en plus...
L'uniforme, tout ça. En fait.
De retour à quelque chose de plus traditionnel, oui. En fait, c'est deux mondes qui s'affrontent. Et je suis content que l'émission ait peut-être servi à mettre ça en évidence. Qu'on dépasse le simple fait divers et qu'on parle de choses de peut-être.
On parle d'autre chose que
plus...
de l'ISS quand on parle du lycée autogéré.
Oui, voilà. Et qu'on se rende compte qu'il y a des dynamiques structurelles d'envergure qui sont à l'œuvre. Le mot de la fin, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ?
Essayez de garder vos lieux autogérés le plus vivant possible. Vraiment, essayez. Moi, si j'ai un truc prenez à dire de soin. Tout ça, prenez-en soin un maximum et faites le moins appel aux institutions extérieures parce que vous en baverez sûrement très très fort plus tard.
Parfait. Merci d'être venu nous parler de la situation du LAP à l'antenne de Mont Paris FM. On vous souhaite beaucoup de force et de courage. Hein.
Merci.
Et à vous, chers auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines pour une autre émission de Société.